Pot-yaourt, ficelle, pot-yaourt, ficelle, pot-yaourt.
Bienvenue dans ce nouvel épisode. Troisième pan d'un triptyque intitulé Le cœur au ventre, trois histoires qui commencent de la même manière. Troisième histoire, Sibylline. Il prit la montre entre ses mains. Doucement, il la plaça sur une surface verte. Il ajusta sa lampe et se mit au travail. Son corps s'empara de l'outil adéquat. Lunettes sur le nez, il enleva le capuchon situé au dos du cadran. Puis il ouvrit un tiroir. Il en sortit une boîte, dont il extirpa une pile de la taille d'un cachou. Il inséra la pile et, sans me regarder, me demanda: est-ce que vous savez si votre montre marchait auparavant, monsieur ? Je lui répondis que je n'en savais rien. Il n'y a pas âme qui vive là-dedans. Il retourna avec une infinie délicatesse l'horloge miniature et observa, hypnotisé par les 12 symboles romains, la surface où naît la marche du temps. Les aiguilles reprirent leur course rapide et il me sembla entendre un battement régulier. Mais le visage de l'horloger, incliné vers ma vieille montre, restait rêveur et immobile. Après quelques minutes, qui me parurent des heures, ôtant ses lunettes, il leva enfin les yeux et m'annonça tout à trac, d'une voix grave: « Les objets inanimés ont une âme, monsieur, qui s'attache à notre âme et la force d'aimer. » Il enferma le bijou dans le creux de sa main, tout en fermant les paupières, respira de moins en moins et murmura comme une incantation que je ne compris pas. Alors qu'il releva les yeux écarquillés à l'extrême, vitreux et aux pupilles dilatées comme deux grands abysses, un frisson parcourut mon échine. Son visage bienveillant d'il y a quelques instants venait de changer et ses traits déformés par un sourire pervers m'inspirait alors un profond dégoût, une nausée infernale, des sueurs glaciales, une peur sans nom. « Au revoir, monsieur, » dit-il. « Il est l'heure de rentrer. » Je fis quelques pas en arrière. « Merci pour tout, merci, à bientôt. » Me retournant vers la porte, je me saisis de la poignée et la tourna d'un geste vigoureux. Alors que je mettais un pied dehors et que je quittais dans la précipitation cette atmosphère méphitique, je sentis la main de l'horloger se poser sur mon épaule. « Attendez, monsieur, vous oubliez votre montre. » Livide, je me saisis de l'objet et le fourra dans ma poche. Elle me semblait lourde, brûlante. En toute hâte, je regagnai mon petit appartement et me servis un verre de bourbon, puis un deuxième. Tout en buvant mon troisième verre, je sentais comme une présence dans la pièce, comme si les murs avaient des oreilles, comme si quelqu'un, tapis dans l'ombre, me regardait secrètement. L'impression était désagréable et inédite. Petit à petit, une odeur fétide se répandit autour de moi. Cela me donnait le sentiment de n'être pas tout à fait chez moi. Mon regard balaya la pièce pour m'assurer qu'il n'en était rien. J'entrepris d'ouvrir la fenêtre pour renouveler l'air, devenu nauséabond. Dehors, il n'y avait pas d'air. Pourtant, l'été touchait à sa fin et le souffle du vent ce matin perceptible paraissait maintenant figé. Je refermai aussitôt la fenêtre avec un sentiment étrange de crainte dont je n'étais pas coutumier. Une sorte d'hypervigilance s'était installée en moi. « Que m'arrive-t-il ? » pensais-je. Je me rassurais en pensant que j'avais peut-être bu du bourbon plus que de raison. Je rangeai la bouteille au plus profond de mon placard, mais j'en vis une seconde sur le premier rang. Il y avait dans cette pièce des objets qui se jouaient de moi. Je pensais maintenant à la boutique de l'horloger, car mon malaise avait commencé là-bas. Mon regard se dirigea tout naturellement vers mon veston posé négligemment sur la chaise de mon bureau. La chaîne pendait. J'aurais pourtant juré que l'horrible horloger l'avait enveloppé dans un papier Kraft. Je m'approchai du veston pour en sortir la montre. Ce n'était pas la mienne. Je déglutis amèrement. Le dernier verre de bourbon tapissait encore ma bouche, ma gorge, jusque dans mes poumons. La montre était lourde, bien plus lourde que la mienne. Pourtant, elle semblait faite d'un métal pauvre, un genre d'aluminium vieilli. Par un réflexe inexplicable, je l'amenai à mon nez et commença à la renifler. Elle n'avait pas d'odeur particulière. Les relents nauséabonds qui envahissaient la pièce ne provenaient pas d'elle. Une porte claqua, quelque part dans l'appartement. Je sursautai. Ce qui était étrange, c'était que la chaîne, accrochée à la montre, ressemblait en tout point à la mienne. C'était ma chaîne, mais ça n'était pas ma montre. Je m'assis. J'envisageais sérieusement un quatrième verre d'alcool. Mais je ne bougeais pas. Mon regard glissa sur l'armoire en bois sombre qui jouxtait la fenêtre, et s'arrêta. Était-ce l'anxiété procurée par la situation, ou bien la fatigue, l'alcool? Mais j'étais convaincu que l'armoire me regardait, qu'elle constatait mon incompréhension, et qu'elle s'en amusait. « Non, » me dis-je, « reprends-toi. » Dans ma main, le métal de la montre s'échauffait. Je la retournai. Pas d'inscription. Je tentai de l'ouvrir pour étudier le mécanisme, comme si je pouvais en déduire une explication. Mais sans les outils appropriés, c'était impossible. La montre semblait fonctionner normalement. L'heure qu'elle indiquait était exacte. J'examinais la tâche de la chaîne. Je voulais la prendre, récupérer ce qui était à moi, ce qui m'était dû, arracher mon bien de cette montre étrangère. Mais mes doigts étaient gourds, ils s'en mêlaient, s'abîmaient sur la tâche et ne détachaient rien. Une envie violente de jeter la montre au sol traversa alors mon esprit.
Podiumurte, ficelle, podiumurte, ficelle.
Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Thérèse Marie, Paul, Florence et Julie pour leur participation à l'écriture de ce texte. À bientôt.